Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Jean-Noël Talbot, vous êtes chef de service de médecine nucléaire de l'hôpital Tenon. Vous êtes professeur de biophysique médecine nucléaire à l'université Pierre et Marie Curie. Et enfin, vous êtes chairman du groupe de conseil scientifique des agents de diagnostic de l'Agence européenne du médicament. Jean-Noël Talbot, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors, l'Agence européenne du médicament, qui est située à Londres, dépend-elle de l'Union européenne ? C'est un institut que je ne connaissais pas et que j'ai découvert, je suis curieuse.
L'Agence européenne du médicament, ou IMIE, effectivement, est basée à Londres et correspond à l'une des structures de l'Union européenne, tout à fait. Elle dépend donc de Bruxelles et de la Commission. Et elle est en charge, comme son nom l'indique, du médicament en général, et en particulier de l'enregistrement des médicaments dans les divers pays de l'Union européenne, et puis du suivi de ceux-ci, c'est-à-dire des accidents éventuels, des intolérances, etc. Et également de la vigilance vis-à-vis des situations sanitaires.
Très bien. Alors, vous êtes spécialiste des techniques de l'imagerie médicale qui ont considérablement évolué ces dernières années, en particulier de l'imagerie médicale en cancérologie. La radiographie conventionnelle, le scanner, l'échographie et enfin l'IRM, qui permet la réalisation d'images du corps entier, offrent en fait aux cliniciens de nouvelles stratégies de décision pour les thérapies en cancérologie. Jean-Noël Talbot, le grand avantage de l'imagerie dont vous êtes spécialiste, c'est d'être non invasive, in vivo. Vu de l'extérieur, ça paraît un pas de géant dans l'histoire de la médecine. Ça ne cesse de s'améliorer. Alors, le développement de l'imagerie médicale accompagne l'évolution de la médecine. Peut-être que c'est même l'inverse, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez rappeler les grandes étapes de ces mises au point, de ces différentes modalités d'imagerie ou de ces techniques ?
Je vais essayer. Bien que
c'est difficile, mais...
Je vais essayer. Je ne suis pas professeur d'histoire de la médecine. Il y a des chaires d'histoire de la médecine.
Globalement, puisque ici, on est à l'Institut de France où a été présentée la première radiographie du corps humain. Alors, entre le 19e siècle et le scanner, il y a eu quelques grandes étapes. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler rapidement ?
Je vais essayer, en essayant de ne pas trop me mélanger dans les dates. Effectivement, oui, l'imagerie médicale non-invasive est née avec la découverte des rayons X par Röntgen à la fin du 19e siècle. La première radiographie était celle de la main de sa femme, comme vous le savez. C'était une ouverture fantastique puisque ça permet de voir les structures, en particulier les structures osseuses ou les structures pulmonaires, sans avoir à faire de gestes, comme il fallait le faire auparavant. Ça, c'était donc le début du 19e siècle, c'était les rayons X. Et effectivement, les rayons X sont restés sous cet aspect traditionnel d'image en ombre chinoise pendant plus de 70 ans, je dirais. C'est-à-dire jusqu'à la découverte du scanner, qui lui aussi dérive des rayons X. Mais où l'association à un ordinateur, à des procédés de calcul, permet de modifier l'image et de rendre une image en coupe. Ce qui permet de mieux voir les structures profondes, puisque avant elles se superposaient les unes les autres, il fallait multiplier ce qu'on appelle les incidences, c'est-à-dire l'oblique, la face, les profils, de façon à essayer de voir les structures profondes, et ça augmentait considérablement l'irradiation des gens. Donc il est certain que le scanner, donc ce qu'on appelle nous en langage correct français la tomodensitométrie X, la tomodensitométrie a été une révolution, qui a commencé à la fin des années 60. Donc c'est relativement récent, une quarantaine d'années. Alors ensuite est venue à peu près en même temps l'échographie et l'IRM. L'échographie, donc, c'est typiquement non-invasif, puisque contrairement au scanner X, ce qu'on ne sait pas toujours, où il y a une irradiation dans l'échographie, il n'y a pas d'irradiation. C'est un son, un ultrason qu'on lance dans le corps humain et qui est répercuté, un petit peu comme un sonar. Et on réalise donc des images sur la manière dont les structures renvoie ces ultrasons. Ça, c'était aussi les débuts, c'est effectivement à peu près pareil, les années 70, un petit peu après. Là encore, il y a une amélioration continue par rapport aux premières échographies qu'on voyait, qui étaient utilisées par exemple pour mesurer la taille du diamètre bipariétal des enfants. Ça, c'était le début de mes études de médecine, de façon à dater les grossesses quand on n'était pas vraiment sûr. Et l'imagerie tridimensionnelle où on voit le bébé sucer son pouce in utero, maintenant, il y a un monde, il y a une amélioration considérable. Alors, ça, ce sont les techniques donc, qui procèdent de méthodes qu'on pouvait utiliser également dans l'industrie. Par exemple, les ultrasons ont longuement été utilisés dans l'industrie, les rayons X largement aussi pour analyser des tableaux, par exemple. Mm-hmm. Alors, il y a une technique qui s'est développée de façon un peu originale par rapport à ce qui se faisait, parce que je connais pas l'équivalent industriel, qui est l'IRM, dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. C'est-à-dire que c'est les noyaux d'hydrogène, essentiellement, qu'on fait osciller Et selon la structure chimique dans laquelle ils sont inclus, ils oscillent avec une fréquence un peu différente. Enfin, c'est un petit peu difficile à expliquer. Donc, on obtient là encore une image qui traduit les structures anatomiques, mais également leur richesse en hydrogène et les structures dans lesquelles se trouve impliqué l'hydrogène. Le début est un petit peu plus tardif que l'échographie, mais c'est à peu près à la même époque, hein, c'est les années 70. Alors, là aussi, l'IRM a beaucoup évolué, puisque maintenant, d'une image limitée au cerveau où elle était au départ, c'était très longtemps.
Oui, c'était pour le cerveau.
Hein, on passe maintenant à l'IRM du corps entier, avec des durées d'examen qui sont raisonnables, parce que là aussi, il y a, pour des examens d'imagerie in vivo, il y a un point qui est à prendre en compte, hein, c'est la durée d'examen. Autant un tableau que vous voulez radiographier ou que vous voulez analyser, il se laisse faire pendant des heures, autant un patient, c'est illusoire d'espérer un examen correct sur plus d'une demi-heure. Après, les gens bougent, s'énervent. Donc, en gros, il faut obtenir des techniques qui permettent des examens dans une durée limitée. Par exemple, la durée d'examen d'un scanner, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup réduite. Alors, j'en viens à un pan que vous avez oublié. Je ne sais pas si vous avez fait exprès ou si c'était pour me provoquer. C'est-à-dire la médecine nucléaire. Parce que
oui.
les techniques dont vous avez parlé, c'était uniquement de la radiologie. Ce que je ne suis pas. Je ne suis pas radiologue. Même si, par mes fonctions, je suis obligé de bien les connaître. Parce que ce sont nos cousins germains. Donc, alors, la médecine nucléaire, elle aussi, est fort ancienne. Elle est même plus ancienne que toutes ces techniques que vous avez décrites, sauf la radiographie. La médecine nucléaire, ça provient de l'utilisation de corps radioactifs. C'est-à-dire que, contrairement aux autres techniques où vous envoyez de l'énergie de l'extérieur du patient, hein, pour l'IRM, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, on peut dire que c'est quand même ça. Donc, vous envoyez l'énergie de l'extérieur du patient, et puis, c'est la manière dont le patient répond à ce passage d'énergie, ce transfert d'énergie, c'est la manière dont il répond qui vous donne l'image. La médecine nucléaire, c'est complètement différent. Là, la source d'énergie est à l'intérieur du patient. C'est un corps radioactif qu'on lui injecte. Alors, au point de vue du type de particules et de la conception de l'image, c'est très proche de la radiologie conventionnelle, c'est-à-dire des rayons X ou de la radiographie conventionnelle, ou même du scanner. On a eu la même évolution qu'eux, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire des images planes, hein, et ensuite on est passé à des images en coupe. Bon. Donc, c'est la même conception, sauf que l'approche est réellement différente parce qu'on ne peut pas injecter des activités de radioactivité qui soient comparables au flux de photons qu'on obtient en radiologie. On est obligé d'en injecter beaucoup, beaucoup moins. Donc, nos examens sont plus lents. Mais, à l'inverse, comme c'est l'organe examiné qui devient la source, il incorpore la radioactivité en fonction du métabolisme, en fonction de ses propriétés physiologiques, en fonction de ce qu'on appelle sa viabilité. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'on réalise, c'est un mot que j'ai utilisé trois fois, de l'image fonctionnelle.
Voilà,
ce qui s'oppose à l'image anatomique.
Anatomique, des outils dont vous parliez tout à l'heure.
De radiologie.
Voilà.
Alors donc, l'imagerie fonctionnelle, au départ, n'était que la médecine nucléaire, c'est-à-dire la scintigraphie. Alors, pour reprendre l'exemple que je pense est le plus ancien, il y en a deux qui ont été à peu près ex aequo. C'était la scintigraphie de la thyroïde ou la scintigraphie du cerveau. Alors, la thyroïde, ça se comprend assez facilement. Je pense que tout le monde sait maintenant, surtout depuis les accidents de Tchernobyl, que la thyroïde incorpore de l'iode. Hein, et donc, si on donne une petite quantité d'iode radioactif, on a une image de la thyroïde. Alors, c'était utile d'un point de vue anatomique. Ça a été fait dans les années 50, hein, c'est-à-dire bien avant le scanner, l'IRM ou l'échographie. Donc, l'approche de la scintigraphie de la thyroïde, pour prendre l'exemple historique, permet non seulement de faire l'image de la glande thyroïde, c'est-à-dire voir si elle est ectopique, c'est-à-dire si elle n'est pas à sa place, ça existe ça. Voir par exemple chez un nourrisson qui est en hypothyroïdie, si c'est parce qu'il n'a pas de glande thyroïde ou si c'est parce que sa glande thyroïde tarde à se mettre en œuvre. Donc vous voyez qu'il y avait des approches fonctionnelles où on cherche la glande elle-même. Et puis ça permet au sein d'une glande de définir des zones qui fixent beaucoup l'iode, d'autres qui ne le fixent pas du tout, d'autres qui le fixent trop, donc de définir la fonction de chacune des morceaux de la thyroïde. Ce que fait toujours pas, par exemple, l'échographie de la thyroïde, qui est devenue, je ne dirais pas le concurrent, mais l'examen complémentaire de la scintigraphie de la thyroïde. Voilà. Donc ça, c'est l'historique dans les années 50. Là encore, comme je viens de vous expliquer, les méthodes se sont affinées. C'est-à-dire qu'on a multiplié le nombre de traceurs possibles. Il n'y a pas que l'iode. Hein.
Oui.
Il y a le technétium. Et puis le technétium, c'est une lanterne qu'on met sur de nombreuses molécules. Et du coup, on suit le devenir de la molécule. On peut même imaginer, et ça se fera probablement, que pour certains médicaments particulièrement chers ou d'utilisation difficile, on puisse rendre radioactif le médicament, l'injecter au patient à des toutes petites doses et voir où se distribue ce médicament dans le corps pour s'assurer qu'il va bien là où on l'attend. Ce qui, évidemment, est très supérieur comme approche.
On va le pister.
Oui, c'est exactement. Ce qui est très supérieur comme approche, à le donner à tout hasard et puis de voir si ça marche.
Oui.
Parce que d'abord, il y a le risque que ça ne marche pas. Et puis, il y a le risque que non seulement ça ne marche pas, mais ça produise des effets secondaires délétères pour le patient. Donc, vous voyez que la gamme de produits radioactifs potentiels utilisables en médecine nucléaire est quasiment infinie, puisqu'on peut passer de la quinzaine ou la vingtaine de produits à l'heure actuelle qui servent à des diagnostics bien précis à ce qu'on appellerait la médecine individualisée, où là, ça pourrait être le médicament utilisé par le patient, enfin qu'on se propose d'utiliser chez le patient, qui sera utilisé dans un premier temps pour réaliser l'image de sa distribution et s'assurer qu'on a une chance de succès.
Alors ça, ce sont les conséquences formidables
de l'avenir. Je suis allé un petit peu vite. Alors ça, c'était la scintigraphie. Alors pour terminer, on va réunifier les deux.
Oui.
C'est-à-dire que le dernier avatar de la médecine nucléaire ou de la scintigraphie, c'est ce qu'on appelle la TEP, la tomographie par émission de positons. Donc tomographie, ça veut dire donc qu'on fait des images en coupe.
Oui.
Par émission, ça veut dire qu'on ne traverse pas le malade comme avec des rayons X, mais c'est lui qui émet. Chaque mot s'exprime assez facilement, finalement. De positons, alors ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Le positon, c'est une particule radioactive, enfin plus exactement une particule qui est émise lors d'une désintégration radioactive, qui se transforme à l'issue d'un système que je ne décrirai pas en l'équivalent de rayon X. On termine avec la même particule, c'est-à-dire le photon X ou gamma. Voilà.
Et l'avantage de cette TEP ?
Ah bah, l'avantage de la TEP, alors là, je peux en parler plus facilement parce que c'est elle que je pratique au jour le jour. Hein. L'avantage de la TEP, c'est que c'est une approche fonctionnelle comme la scintigraphie, mais c'est systématiquement tomographique. C'est-à-dire qu'on obtient des images qu'on peut superposer avec les images tomographiques, c'est-à-dire les coupes, qu'on observe aussi bien en IRM qu'en scanner. Donc, ça rejoint ce qu'on appelle l'imagerie moderne, c'est-à-dire l'imagerie en coupe. Alors que la scintigraphie conventionnelle, pour laquelle on peut aussi faire des coupes, est moins performante pour ça.
Comment évolue actuellement l'imagerie médicale ?
Ainsi que je le disais, on avait deux grandes approches traditionnellement, l'approche anatomique et l'approche fonctionnelle. L'approche fonctionnelle ayant l'avantage de pouvoir être quantifiée et d'être parfois plus précoce que l'approche anatomique. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre l'exemple de la thyroïde, on peut voir des anomalies de fonctionnement de la glande thyroïde avant même que, anatomiquement, à l'échographie par exemple, on observe des anomalies. Donc, en fait, l'évolution quasi certaine de l'imagerie médicale en général, c'est la convergence de ces deux approches, en tout cas au moins pour les cas difficiles. Évidemment, peut-être pas pour la radio de thorax conventionnelle ou pour voir si on s'est cassé un os dans le bras, ça restera probablement conventionnel. Mais dès qu'on est dans des cas plus délicats, l'association de l'approche anatomique et de l'approche fonctionnelle est certainement l'avenir de l'imagerie médicale. Donc, approche anatomique, c'est si on accepte l'irradiation, c'est le scanner. Si on ne veut pas irradier, c'est l'IRM, mais il y a des organes dans lesquels l'IRM est quasiment impossible pour des raisons techniques. Et puis, approche fonctionnelle, c'est la scintigraphie ou la tomographie d'émission de positons. Et puis, il y a quelques tentatives pour l'IRM de devenir elle aussi fonctionnelle, c'est-à-dire d'avoir un signal qui ne dépend pas que de l'environnement dans lequel se trouve l'atome d'hydrogène, mais qu'on modifie par des molécules traceuses, un petit peu à l'instar de ce qu'on fait en scintigraphie. Là, il y a encore un problème de concentration, c'est-à-dire que le signal scintigraphique est un signal qu'on peut déceler à des valeurs très très basses, 10 puissance moins 12 mol, alors qu'en IRM, on peut déceler la modification du signal IRM grâce à des molécules traceuses qu'à 10 moins 6 mol à peu près. Donc vous voyez qu'il y a encore un million de concentrations à franchir.
On parle d'image moléculaire.
Oui, c'est la grande mode. C'est-à-dire que c'est l'imagerie moléculaire, au sens large, c'est l'imagerie qui se forme à partir d'un signal qui est porté par des molécules, alors que, bien sûr, tout est molécule, nous sommes molécules, mais alors que l'imagerie conventionnelle est plus macroscopique. Par exemple, si on recherche une fracture dans un os, évidemment, il y a des molécules qui sont lésées. Mais enfin, ce qu'on voit, c'est globalement l'atteinte de l'ensemble de l'os cortical. Alors que, depuis sa naissance, la scintigraphie était moléculaire, puisqu'il fallait que ce soit les molécules d'iode qui arrivent. Et on les compte, entre guillemets, une par une. C'est-à-dire qu'on récupère un signal à chaque désintégration d'une molécule.
Oh, c'est vertigineux.
Oui, ce sont des techniques que la radioactivité se détecte remarquablement bien. Alors, ce qui est un bien, ce qui est un mal, parce que si on veut faire peur, il suffit de mettre des compteurs radioactifs, il y en a partout. Bon. À l'inverse, par exemple, vis-à-vis du risque radioactif, il est beaucoup plus facile à déceler que le risque chimique ou le risque biologique. Donc, comme elle se détecte remarquablement bien, c'est le signal de choix pour détecter au niveau de quelques molécules. On n'est pas au niveau d'une molécule, mais au niveau de quelques molécules, c'est-à-dire qu'on fait la somme de signaux. Mais ce qu'on enregistre de façon individuelle, c'est la désintégration au niveau d'une molécule.
Alors, avec cette précision pareille, j'imagine que pour l'évaluation des traitements, ce sont des images très utiles, probablement. Et inversement, pour le dépistage aussi, on est à des carrefours importants de la prise en compte de l'évolution des maladies. Là, est-ce qu'il faut réaliser des examens tout le temps, avant, pendant, après ? À quel moment est-il judicieux, disons, d'utiliser au mieux ces images ?
C'est un
Parce que la
sujet.
Tentation, c'est d'en faire un maximum, évidemment, oui, pour sûr. Soigner au mieux.
Bien sûr, mais là, il faut prendre plusieurs choses en compte. D'une part, c'est que, en tout cas, si on s'adresse à la TEP, il existe une irradiation. Donc, il n'est pas logique d'irradier massivement des sujets sains. massivement, non pas en intensité des radiations, mais en nombre de personnes. Bon, donc ça, c'est le premier point. Par exemple, si vous vous souvenez, vous avez dû en bénéficier comme moi, nous avons à l'école bénéficié des radioscopies systématiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je m'en souviens. On passait, il y avait un camion qui arrivait, puis hop, c'était des radioscopies. Ça donnait des doses non négligeables sur une vaste population. Bon, ça a été supprimé. Donc, toutes les irradiations inutiles doivent être supprimées. D'ailleurs, la médecine nucléaire dépend non seulement pour ses traceurs de l'IMIA dont on a parlé, mais elle dépend aussi pour sa
de
pratique.
De l'agence.
Oui, d'une autre, voilà, d'une autre agence européenne qu'on appelle l'Euratome.
Oui.
Et en France, c'est pareil. On dépend aussi du ministère de la Santé, mais parmi les branches du ministère de la Santé, il y a aussi une branche qui contrôle la radioactivité. Donc, ceci pour dire que ça rend cette première hypothèse difficile. Par contre, on pourra, oui, faire du dépistage dans des groupes à risque. Il y a déjà des choses qui ont été entreprises. Par exemple, les patients qui ont été soumis à l'amiante ou qui sont des gros fumeurs, on peut les dépister par scanner. Il y a un programme en français pour voir si ça apporte quelque chose.
Ça fait partie
par scanner.
Du plan cancer, ça, non?
Oui, oui, ça fait oui. partie du plan cancer. Donc, on peut les dépister par scanner. Et puis alors, justement, si au scanner, on a des images un peu douteuses, on peut compléter par TEP, de façon à voir si, métaboliquement, elles sont les structures en question sont vraiment douteuses ou non.
Parce que on peut faire la différence entre une tumeur bénigne, une tumeur maligne, comme ça?
Oui, enfin comme ça.
Je veux dire, à l'imagerie?
Oui, la référence, c'est l'histologie. Hein, c'est-à-dire,
ouais,
bien
oui,
sûr,
c'est
bien sûr.
L'étude des
mais,
tissus.
Oui, mais l'imagerie par TEP, avec un analogue du sucre, parce que les tumeurs malignes mangent beaucoup plus de sucre que les structures bénignes, l'analyse par TEP donne un résultat avec une grande probabilité. Après, c'est raisonnement probabiliste. Alors, il va de soi que si la probabilité que la tumeur soit maligne est inférieure à 5%, ou si elle est supérieure à 95%, la stratégie qui suit n'est pas la même.
Oui.
Bien sûr, l'histologie reste la référence, mais l'histologie, c'est invasif, il y a des complications possibles, donc il est bon de la mettre en œuvre chez des patients à haut risque. Et justement, le criblage, le ciblage des patients à haut risque, ça peut être l'imagerie non-invasive fonctionnelle, comme la TEP avec le sucre, le glucose radioactif. Donc, ça, c'est la place dans le dépistage. Alors, il y a un pays au monde, qui est le Japon, où effectivement, la TEP est utilisée en dépistage chez des sujets qui le font volontairement. Alors, peut-être qu'ils sont un peu cancérophobes. Et oui, il y a des dizaines de milliers d'examens qui sont faits au Japon. C'est pratiquement la moitié des examens qui sont faits, d'examens TEP, qui sont faits au Japon, qui sont faits chez des sujets a priori sains, qui cherchent à savoir s'il n'y a pas une tumeur dormante. Alors, ça pose le problème de ce qu'on appelle les faux positifs et les faux négatifs, c'est-à-dire que pour tout examen d'imagerie, il y a la possibilité de passer à côté d'une lésion qui pourtant serait visible, et puis il y a la possibilité d'interpréter comme pathologique, comme anormale, quelque chose qui n'est qu'une variante de la normale, ou alors qui est sans gravité, par exemple une cicatrice. Donc, c'est ce qu'on appelle les faux positifs et les faux négatifs. Alors, lorsqu'on fait du dépistage, les faux positifs coûtent très cher. Parce que ce sont des gens qui n'ont rien, à qui, sur votre examen, vous allez dire il y a un risque, et chez lesquels vous allez multiplier les investigations. D'abord, ça coûte cher. Deuxièmement, ça les affole. Donc, il faut une technique pour le dépistage qui soit très spécifique. C'est-à-dire qui ne risque pas de mettre en évidence, ou peu de mettre en évidence, des anomalies chez des gens qui n'ont rien. Alors, l'autre versant en imagerie, c'est ce qu'on appelle la sensibilité, c'est-à-dire la capacité qu'a l'examen de mettre en évidence l'anomalie chez ceux qui sont atteints. Parce qu'évidemment, si vous êtes très spécifique, vous pouvez être parfaitement spécifique en ne voyant jamais rien. Dans ce cas-là, évidemment, les gens qui n'ont rien, vous ne leur voyez rien. Le problème, c'est qu'il faut voir quelque chose. C'est ce... Bon, alors, ça peut paraître des arguties, pas du tout. C'est vraiment là-dessus qu'on base maintenant l'évaluation des techniques d'imagerie sur un équilibre entre la sensibilité et la spécificité. Et selon la phase où on se trouve devant un patient donné, on privilégie l'un ou l'autre. Comme j'ai essayé de vous l'expliquer, en cas de dépistage de masse, il faut une technique qui soit très spécifique. Parce que sinon,
alors,
comme a priori, les gens n'ont rien...
On en est loin pour l'instant.
Pardon ?
On en est loin encore en France, disons.
Dépistage de masse, oui.
C'est
par exemple, je vous ai cité, et encore, ce n'est pas des dépistages de masse, on ne va pas faire un scanner. Le scanner est une technique qui irradie pas mal. Hein. Alors, il y a toujours deux manières de voir les choses quand on parle d'irradiation. Ou bien on compare à l'irradiation naturelle, qui à Paris est très faible. Donc, ce qu'on appelle 2,5 millisieverts par an. Alors évidemment, les examens d'imagerie vous donnent des irradiations comparables entre 1 et 5 ans d'irradiation naturelle. Alors évidemment, on se dit, en quelques minutes, je vais recevoir ce que je reçois en 5 ans. La seule chose, c'est que l'irradiation naturelle n'a jamais produit de dégâts chez personne, c'est bien connu. Hein. Et puis qu'il y a des gens qui vivent à des seuils d'irradiation naturelle qui sont 40 fois plus élevés que les nôtres, en Inde par exemple, ou 10 fois dans les montagnes, et qui n'ont pas non plus d'effets secondaires. Bon, à l'inverse... Si on veut un petit peu inquiéter, on calcule en fonction de l'irradiation naturelle. À l'inverse, il faut se dire que quand on est en cancérologie, l'irradiation joue peu, puisque les patients sont susceptibles de recevoir de la radiothérapie ou des techniques de chimiothérapie qui entraînent les mêmes lésions
Oui,
qui sont dans des,
des
risques, dans des facteurs de risque, dans des échelles de risque de facteur 1000. Donc à partir de là, je crois qu'on ne recule plus devant un examen un peu irradiant.
Nous marquons une courte pause et nous retrouvons dans quelques instants Jean-Noël Talbot, chef de service de médecine nucléaire de l'hôpital Thonon, sur l'explication des différentes techniques d'imagerie médicale. Comment ça se passe, je dirais, au niveau de la formation des médecins à l'imagerie médicale, puisque ces spécialités évoluent quand même considérablement. Alors évidemment, on a toujours certes recours à un spécialiste qui travaille en équipe, mais est-ce que cette médecine a, bon, cette médecine a visiblement de l'avenir, mais elle a sûrement la faveur des étudiants en médecine dans leur cursus. Comment est-ce qu'elle va évoluer? Est-ce que c'est une médecine qu'elle va en poupe? Comment est-ce qu'on travaille entre médecins de spécialités différentes sur des techniques qui évoluent aussi rapidement?
La première question que vous posez, c'est est-ce qu'on travaille maintenant systématiquement en équipe? Les choses sont un petit peu plus complexes. C'est-à-dire que l'anatomopathologiste fait son prélèvement tout seul, il ne va pas chercher le médecin nucléaire. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont l'anatomopathologiste caractérise la tumeur et de la sécurité qu'il a pour cette caractérisation, plus ou moins agressive, on choisit un traitement plus ou moins agressif, et puis on fait une recherche de l'extension du cancer plus ou moins poussée. C'est-à-dire que si on a une tumeur, par exemple, dans le sein, grâce à la mammographie, on diagnostique des tumeurs de plus en plus précoces. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des tumeurs T1, N0 de petite taille. Bon, il faut les retirer, bien entendu, surtout si elles sont malignes. Eh bien, après, pour ces toutes petites tumeurs cancéreuses, on limite généralement les examens d'investigation parce qu'on sait que la probabilité qu'elles aient métastasé est très faible. Quand on diagnostique malheureusement beaucoup plus tard un cancer du sein, lorsqu'il est au stade localement évolué, là, on fait toute une batterie d'examens beaucoup plus importante. Donc, vous voyez qu'il y a un travail de prescription des examens d'imagerie qui se fait en fonction de ce qu'apporte la clinique et éventuellement l'anatomopathologie. Donc, le travail se fait en équipe selon ce qu'on appelle des référentiels. Maintenant, je crois que, et ça me paraît tout à fait sain, c'est ce qu'on appelle, alors j'essaie de traduire en français parce que maintenant, tout ça, ce sont des concepts en bonne partie anglo-saxons, c'est-à-dire la médecine basée sur des preuves. Evidence-based medicine. C'est-à-dire que la médecine n'est plus un art, comme on le disait encore lorsque j'ai commencé mes études, la médecine veut devenir une science basée sur des preuves. Donc, de façon à faire bénéficier le patient d'une qualité de soins qui soit homogène dans toute la France, si autant que faire se peut, et qui soit basée sur, effectivement, la meilleure stratégie diagnostique dont je fais partie, puis thérapeutique qui en découle, eh bien, il y a ce qu'on écrit entre spécialistes des diverses disciplines, ce qu'on appelle des référentiels. C'est-à-dire un petit peu ce qu'il convient de faire devant tel type de cancer, à tel stade, etc. Alors, ces référentiels nécessitent justement qu'on soit tout à fait sûr, non seulement du diagnostic de cancer, mais du stade auquel il se trouve et de la forme histologique à laquelle il appartient. Et peut-être même à l'avenir, enfin c'est un avenir tout proche, on va s'aider beaucoup de la biologie parce que beaucoup de tumeurs cancéreuses s'associent à des modifications de leur patrimoine génétique. Et donc la génomique, la protéomique, alors attendez, on décline toutes sortes de choses. Eh bien, cette technique permettra de sélectionner les patients qui sont à risque de tel ou tel type de lésion et donc de guider la stratégie diagnostique.
Toute cette imagerie médicale permet de choisir la bonne stratégie dans les traitements ou la stratégie du traitement très individualisée,
très
localement.
Il y a une autre notion qui est importante pour nous, qui est ce qu'on appelle la modification d'attitude thérapeutique ou de prise en charge du patient. C'est-à-dire qu'un examen, quel qu'il soit, ne serait-ce qu'une simple prise de sang avec un dosage, qui ne risque pas, par son résultat, de modifier la manière dont vous prenez en charge le patient, c'est-à-dire que c'est au sens large, c'est son traitement ou au contraire son absence de traitement. Si vous estimez qu'il a été guéri, il ne faut pas l'ennuyer davantage. Eh bien, si vous faites un examen alors que vous n'imaginez pas que vous puissiez changer ce que vous avez prévu, cet examen est inutile. Quel que soit son prix, que ce soit quelques euros, comme les examens de biologie, voire le millier d'euros, comme nos examens à nous en TEP-TDN.
Ce sont des examens qui coûtent cher.
Oui, ça va vers le millier d'euros. Les IRM coûtent à peine moins cher. C'est vraiment cher, oui.
Oui, à peu près partout maintenant, aujourd'hui, dans tous les hôpitaux de France, on dispose quand même, dans les grands hôpitaux, de ces matériels, hein, à peu près partout,
bien
y compris des cabinets médicaux privés.
La plupart des... Enfin, ça dépend ce que vous entendez par cabinet médical. La plupart des structures lourdes d'imagerie, c'est-à-dire le scanner, il est vraiment à la limite de plus être considéré comme une structure lourde. Ça devient presque la radiologie de base. Bon, l'IRM et la TEP, on considère que ce sont des structures lourdes. Celles-là se trouvent effectivement, pour certaines, dans le secteur libéral, mais en général, quand même, dans des structures hospitalières, elles aussi un peu lourdes. Hein. Par exemple, il y a un centre de... Je ne vais pas faire de publicité, bien entendu, je cite des exemples. Il y a un centre de cancérologie privé ou libéral à Paris-Nord, à Sarcelles, qui a toutes ses méthodes d'imagerie, y compris la TEP-TDM. Hein, de la même façon, à Antony, il y a aussi un... Bon, mais on imagine mal au niveau d'un cabinet, comme vous le disiez,
oui,
un cabinet qui se doterait
d'un tel
d'une TEP
matériel.
Ou d'une IRM.
Voilà.
Alors, actuelle, je n'ai pas d'exemple.
D'accord.
En plus,
parce qu'autrefois, on avait le même sentiment à propos des échographies. L'échographie, tous ces matériaux, quand ils sont apparus,
c'est
jamais dit qu'on en trouverait juste à côté. Quoi.
Ah bah, l'échographie n'est pas réservée ni aux radiologues, ni aux médecins nucléaires.
Voilà.
Ni,
c'est une tellement généralisé que c'est impressionnant.
Bien sûr, le cardiologue, le gastro-entérologue, etc. Mais parce qu'on l'a, entre guillemets, libéralisé pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme c'est une technique qui n'irradie pas et pour laquelle il semble, avec le recul qu'on a, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, dans ce cas-là, c'est une technique sûre qu'on peut pratiquer largement. Cela dit, il faut faire un petit peu la part des choses parce que l'échographie, maintenant, se dote de produits de contraste qui sont des petites bulles.
Oui. Hein.
Et là, par contre, il y a des effets secondaires. Il y a des gens qui le tolèrent mal.
Enfin, oui.
Il y a même des produits de contraste pour échographie retirés des marchés ou qui ont vu leurs indications réduites pour cause de mauvaise tolérance. Donc, il faut faire attention que la méthode d'imagerie peut être parfaitement sûre. Mais dès qu'on commence à avoir un produit de contraste, c'est quelque chose qui améliore la qualité d'image, mais qui est quand même quelque chose d'extérieur à l'individu qu'on vous injecte.
Et qu'on injecte.
Il y a toujours des gens qui sont allergiques ou qui peuvent mal le recevoir.
Alors, comment l'imagerie médicale peut-elle être utile à la recherche en cancérologie ?
Oui, alors ça dépend de quel type de recherche on parle. Si on parle de la recherche clinique, on y est en plein sur la fin de votre question à laquelle je n'avais pas tout à fait répondu, qui était la place de l'imagerie dans le suivi. C'est-à-dire que l'imagerie peut être utile pour le dépistage. Il faut essayer d'avoir des catégories parce que rien ne vous prouve que ce sont les mêmes imageries qui sont performantes dans chacune de ces cases. Si on prend l'histoire d'un patient atteint d'une tumeur cancéreuse, il y a d'abord le dépistage, le diagnostic, qui peut se faire par imagerie, et on découvre des images, ou qui peut se faire parce qu'on a palpé quelque chose d'anormal et qu'on fait une biopsie. Bon. Alors ensuite, il y a la stadification, c'est un mot un petit peu difficile, c'est traduit de l'anglais, staging, qui consiste à savoir quelle est l'étendue du cancer en question, pour lequel on ne pousse pas les investigations aussi loin en fonction de l'agressivité attendue de la tumeur ou de son extension. C'est l'exemple que je vous ai pris pour le petit cancer du sein in situ et par rapport aux tumeurs plus évoluées. Et puis alors ensuite, après le traitement, il y a le suivi du patient.
Cela, il y a une évaluation possible de l'effet des traitements, j'imagine.
Qui est régulière. Et puis, chez un patient qui a été atteint d'un cancer, même si on le considère comme guéri, car on guérit des cancers, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une récidive. Voilà, donc on le suit. Bien sûr, c'est un peu anxiogène pour le patient, mais c'est quand même important de diagnostiquer, en tout cas intuitivement, même si ce n'est pas toujours prouvé, que c'est important de diagnostiquer une récidive le plus vite possible, le plus tôt possible. Donc, là aussi, on choisit les examens du moins poussé au plus poussé, du moins cher au plus cher en général. Il y a une grosse corrélation. Hein. On choisit les examens en fonction du risque que représente le patient. C'est-à-dire que s'il avait un cancer initialement étendu, évidemment, il est plus à risque de récidive que si le cancer était peu étendu. Et puis, en fonction de la façon dont il a répondu au traitement. Donc, il y a des stratégies diagnostiques, il y a des référentiels. Ils ne sont pas encore tous écrits, parce que vous imaginez les milliers de cas possibles.
Oui.
Pour arriver à la fin, à ce qu'on appelle la médecine individualisée,
oui,
où il y aura des grands référentiels. Et puis après, au niveau du patient, parce que vous avez beau suivre le référentiel, il y a toujours des patients qui échappent, bien entendu. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'on soit efficace avec telle technique, et puis ça ne marche pas, c'est l'autre qui marche. Donc, la médecine individualisée, elle dérivera en bonne partie de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la génomique, c'est-à-dire l'analyse génétique, non seulement du patient lui-même, parce que dans nos chromosomes sont inscrits les maladies auxquelles on est le plus sensible, susceptible, ce qui n'est pas susceptible, c'est sensible, et puis les modifications qui sont intervenues au niveau du cancer, c'est-à-dire qu'en général, pour la plupart des cancers, on sait maintenant définir des altérations du contenu génétique et génique. Et donc, on sait quels sont ceux qui sont plus à risque, moins à risque. Et par exemple, il existe maintenant des gènes pour lesquels il y a un risque de cancer gynécologique plus du cancer du côlon. Eh bien, chez ces femmes, on fait maintenant donc, systématiquement une TEP-TDM Et c'est comme ça qu'on a diagnostiqué des cancers complètement débutants qui n'étaient pas visibles, même par les techniques conventionnelles d'imagerie. Parce que l'avantage des techniques fonctionnelles, c'est qu'elles attirent l'œil là où la fonction est perturbée. Ça fait presque des drapeaux japonais. Alors même si l'information y est dans l'image anatomique, celle-ci est tellement riche qu'on a vite fait de s'y perdre et que c'est très important d'avoir l'attention attirée vers les zones qui sont fonctionnellement anormales.
D'accord.
Voilà. On est déjà au niveau de la recherche parce que, comme j'ai essayé de l'expliquer dans la présentation que j'avais faite, les avancées de l'imagerie vont de pair, vont en parallèle avec les avancées du traitement. C'est un concept que j'avais déjà un petit peu développé, c'est-à-dire que si vous avez un type de cancer avec une évolution telle ou une extension telle que vous n'avez qu'une seule issue thérapeutique possible, rien ne sert de multiplier les examens chez ce patient, puisque de toute façon, vous allez faire la même thérapeutique. D'accord. Par contre, ça peut être utile dans le suivi, après, pour voir s'il a répondu à la thérapeutique. Vous voyez, donc, il y a des fois où ça arrive même parce qu'on discute avec certains de nos confrères cancérologues, il y a même des fois où je leur dis, écoute, je veux bien te faire mon examen, mais je sais que ce qu'on sait déjà de l'extension du cancer, si je montre qu'elle est encore plus étendue, est-ce que tu vas changer ton attitude thérapeutique? Lorsque le confrère me répond, bah non, en y réfléchissant, je vais forcément faire la même chose. En général, on ne pratique pas un examen supplémentaire. Bon. Donc, ceci a pour but de montrer à quel point c'est parce que on a de nouvelles portes ouvertes au niveau thérapeutique du cancer que des méthodes d'imagerie de plus en plus fines s'imposent. Alors, quelles sont les nouvelles portes au niveau du cancer? Alors, je ne vais pas prendre la place des cancérologues. Je sais que vous avez des cancérologues qui vont faire des conférences. Je veux donc Nestutor ultra crepidam. Mais il est certain que l'approche conventionnelle qui consiste à commencer par une chirurgie, parce que c'est quand même la chirurgie qui a le plus grande chance d'assurer la guérison du cancer, sauf le cas particulier du lymphome, enfin du cancer hématologique. Eh bien, même cette chirurgie-là peut s'améliorer considérablement. Il y a possibilité maintenant, on commence à essayer de faire des interventions chirurgicales avec des robots, ou bien de remplacer l'intervention chirurgicale mutilante par des interventions à travers la peau, par des micro-ondes, en quelque sorte des petits fours à micro-ondes, où on cuit la tumeur cancéreuse ou ses métastases, ou par des lasers ou par... Donc, même au niveau du geste agressif chirurgical, il y a des améliorations qui se font, il y a des potentialités qui se sont ouvertes. Alors, si on prend le deuxième pied du traitement qui est la chimiothérapie, alors on fait surtout de la chimiothérapie lorsqu'on a des cancers potentiellement ou sûrement étendus et qu'on ne peut pas faire des interventions chirurgicales aussi importantes. Et bien là aussi, la chimiothérapie, est, comme vous le savez, est conventionnelle, est très toxique pour le tube digestif, pour les cheveux, etc.
Pour les effets secondaires.
Oui, pour les effets secondaires. Bien, on ouvre maintenant de nouvelles portes à la chimiothérapie, c'est-à-dire qu'au lieu de détruire les cellules qui se multiplient rapidement, donc les cellules malignes, mais aussi une bonne partie des cellules saines, on veut essayer de bloquer les processus qui font que la cellule maligne se multiplie excessivement, la priver de certains récepteurs, etc. Donc, ce sont des agents chimiothérapiques qui sont ce qu'on appelle non-cytotoxiques, c'est-à-dire qu'ils ne visent pas à tuer la tumeur, ils visent à bloquer la capacité de prolifération des tumeurs malignes, pour un exemple, ou de les priver de leur apport sanguin. Ce qu'on appelle les anti-angiogéniques. Bon, donc je pense que les cancérologues vont reprendre tous ces points. Alors pourquoi est-ce que je vous en ai parlé? Eh bien parce que l'évaluation de l'efficacité de cette technique va faire appel à de nouveaux concepts en imagerie. Par exemple, le concept traditionnel en chimiothérapie cytotoxique, c'est la réduction de la taille de la tumeur.
Oui.
Tout simplement, on prenait, enfin on prend toujours, mais ça va se modifier. C'est ce qu'on appelle les critères RECIST. On prend une règle, on prend un scanner ou une IRM, on mesure la taille. Si la tumeur diminue de taille, bah, on estime qu'on est efficace
mieux.
Puisque...
Mmh.
Bon. Eh bien, ce n'est pas toujours si simple. C'est parce que vous pouvez avoir des tumeurs qui sont plus petites, certes, mais où il persiste une bonne capacité de réexpansion au centre de la tumeur. Donc, il est utile d'associer une approche fonctionnelle pour voir si la partie...
D'où l'intérêt
qui
de toutes
subsiste,
les techniques que vous avez
oui,
présentées.
Comme la tête, oui. Pour voir si la partie de la tumeur qui subsiste est encore vivante ou a été tuée et s'il y a un risque de récidive important ou non. Donc, vous voyez que les critères... vont se modifier pour voir l'efficacité antitumorale. Donc, les critères dits RECIST, qu'on connaissait bien, vont être modifiés pour intégrer cette approche métabolique. Alors, donc, cette approche métabolique permet aussi de suivre les nouvelles approches chimiothérapiques, celles qui ne visent pas à tuer la tumeur, mais à la priver de ses récepteurs et à les priver éventuellement de sang. Alors là, les mesures conventionnelles risquent d'être prises en défaut. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une tumeur qui garde à peu près la même taille, mais qui petit à petit dépérit parce qu'elle est privée de sang, parce qu'elle est privée de ses récepteurs, et devient scléreuse, fibreuse, une sorte de cicatrice. Eh bien, il reste une masse à l'imagerie conventionnelle. Et on est bien ennuyé de savoir si ça a répondu ou pas. Donc, l'approche métabolique permet là encore de dire si ça répond ou pas. Mais rien ne prouve que les critères qu'on avait auparavant pour les chimiothérapies cytotoxiques restent valables. Donc il y a tout un travail et c'est donc la modification de la chimiothérapie qui induit l'intérêt d'imageries nouvelles qui doivent elles aussi être évaluées en fonction de ces nouvelles thérapeutiques. Beaucoup de travail
en perspective.
La radiothérapie, parce que c'est quand même le troisième élément du trépied. C'est pareil, la radiothérapie, auparavant, on se basait sur les anomalies constatées à l'image, en scanner, hein, pour savoir ce qu'on appelait une simulation, le scanner simulateur, pour savoir ce qu'il convenait d'irradier. Bon, c'était là aussi parfois sujet à des erreurs. Par exemple, si vous avez une tumeur qui bouche une bronche, l'aval de cette bronche, le poumon qui est en aval, il se trouve privé d'air. Donc, il se condense. Eh bien, est-ce à dire pour autant qu'il est cancéreux ? Non. Par contre, sur l'image conventionnelle, il apparaît comme une condensation, c'est-à-dire comme une zone condensée, comme une zone potentiellement tumorale. Et donc, il était souvent inclus dans la radiothérapie. Ce qui est dommage, puisqu'une fois que vous avez levé l'obstacle que représente la tumeur, ce poumon-là, il pourrait fonctionner à nouveau. Eh bien, justement, la radiothérapie, elle aussi, inclut les techniques d'imagerie fonctionnelle de façon à tenir compte de l'extension réelle métabolique de la tumeur. Ça s'appelait autrefois le GTV, c'est toujours de l'anglais malheureusement, le volume tumoral macroscopique, et on parle maintenant de volume tumoral biologique. Donc vous voyez que là encore, l'association des imageries fonctionnelles et métaboliques conduit à modifier la prise en charge radiothérapique des patients, qui elle aussi change rapidement. Avant, on délivrait à peu près la même dose à toute une tumeur. Maintenant, on peut faire des différences au sein même de la tumeur. C'est ce qu'on appelle la modulation d'intensité.
Nous retrouvons dans quelques instants Jean-Noël Talbot, spécialiste de l'imagerie médicale et professeur de biophysique et médecine nucléaire.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Est-ce que l'imagerie médicale aura une utilité aussi pour la mise au point de médicaments, choses comme ça ? Puisque là, je suppose que ça servira de test, tous ces traitements, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est comme ça que c'est mis au point.
Vous avez parfaitement raison. C'est déjà chose faite en partie, mais ça va certainement se développer à l'avenir. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple que je viens déjà de donner, c'est-à-dire les fameux critères de taille tumorale, il est certain que c'est des critères qui sont utilisés avec le scanner en général, parfois l'IRM, des critères qui sont utilisés pour mettre au point les médicaments anticancéreux. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce qu'on appelle les lignes guides de l'EMEA pour enregistrer les médicaments anticancéreux prévoit que, au début de la recherche clinique, on utilise ce type de traitement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour une molécule qui arrive finalement sur le marché, il y en a des centaines qui ont été essayées chez l'animal et des dizaines qui ont été essayées chez l'homme. Ce qui explique le coût souvent faramineux des molécules nouvelles. Donc, pour essayer de réduire ce coût...
Et encore, parfois, on trouve qu'il n'y a pas assez de tests, quand même.
Oui. Alors, en cancérologie, encore, on accepte de prendre quelques risques si on a une chance raisonnable d'améliorer le pourcentage de guérison des patients. C'est souvent à la marge. C'est-à-dire qu'avec un nouvel anticancéreux, si on arrive à améliorer 10% de plus des patients par rapport aux médicaments précédents, on considère que c'est une avancée considérable. Ce n'est pas du 0-100, Bon. Donc là, on considère qu'il y a une amélioration, mais il est certain que pour des pathologies plus bénignes, il faut absolument être parfait au niveau sécurité. C'est logique. Un antibiotique, par exemple, ne peut pas prendre le même risque que pour un anticancéreux. Donc, pour définir les effets secondaires, ceux qui ne sont pas cliniquement évidents, et pour définir l'efficacité, on a effectivement recours beaucoup aux techniques d'imagerie au début de l'évaluation du médicament. Mais pour le moment, les lignes guides européennes ne reconnaissent pas encore cette approche comme la preuve de l'efficacité finale du médicament, c'est-à-dire ce qu'on appelle la phase 3. Vous savez que les médicaments passent par trois phases, après la préclinique, phase 1, 2, 3. En phase 3, pour le moment, on reconnaît pour les médicaments anticancéreux comme critère principal d'efficacité la survie du patient. Alors, vous allez me dire, c'est pas illogique, mais à l'inverse, ça freine beaucoup le développement des médicaments parce que heureusement, il y a certains cancers pour lesquels la survie est prolongée. Par exemple, le cancer de la prostate, par exemple, les cancers du sein de bon pronostic. Alors, si on exige d'améliorer la survie des patients, il faut faire des études qui peuvent durer pas des dizaines d'années, mais pas loin d'une dizaine d'années pour avoir un, si j'ose dire, un nombre suffisant de patients qui décèdent. Et puis, de toute façon, il y en a qui décèdent d'autres causes, qui posent évidemment des tas de problèmes. Si on considère des patients de cancer de la prostate et qu'on fait une étude sur 5 ans, il y en a beaucoup qui meurent d'autres causes. Donc, vous voyez qu'il y a là un gâchis économique, c'est certain. À l'inverse, on ne peut pas non plus mettre sur le marché et faire dépenser d'autres sommes pour des médicaments qui ne seraient pas actifs. Donc, il y a toute une approche qui est en cours, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qui consiste à valider, à reconnaître comme ce qu'on appelle, alors j'ai du mal à traduire l'anglais, en anglais c'est surrogate endpoints, donc ce sont des preuves qui peuvent remplacer, par exemple, la survie. C'est-à-dire que si vous arrivez à démontrer...
On change de critère.
Voilà. Et on a un critère qui réagit plus vite. Si vous arrivez à démontrer que l'évolution des patients qui présentaient tel aspect à l'imagerie est toujours, ou presque toujours, favorable, ou en tout cas plus souvent favorable que ceux qui n'avaient pas ces critères d'imagerie. Si vous arrivez à démontrer ça sur une première série de patients, eh bien on pourra utiliser dans les études suivantes ce critère-là en se disant que ce n'est plus la peine de suivre les patients pendant 5 ou 10 ans puisqu'on a réussi à démontrer que ce critère d'imagerie prédisait la survie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un petit peu subtil,
mais
il y a des enjeux considérables derrière cela. Alors, le problème, c'est qu'il faut que l'étude qui démontre la corrélation, la prédiction, soit inattaquable. Et ça nécessite énormément de malades, bien plus que pour démontrer simplement l'efficacité de la méthode d'imagerie pour détecter, par exemple, une métastase du squelette. Ces études ont été lancées aux États-Unis par la FDA sous le nom de Critical Path Initiative. Et en Europe, on a un équivalent qui va commencer parce qu'il ne serait pas bon non plus que les firmes américaines bénéficient d'un avantage à la fois financier et de rapidité de mise sur le marché par rapport à ce qui reste de l'industrie pharmaceutique européenne.
Alors, que de beaux projets avec les progrès de l'imagerie médicale. Jean-Noël Talbot, je vous remercie de toutes ces précisions et de toutes ces explications parce que nous ne sommes pas de grands spécialistes quand même sur ces différentes techniques d'imagerie médicale.
Je vous remercie de m'avoir invité.